Bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués. Ça allait bien ? Bon, alors, c'est le culte de famille. Alors, j'ai des questions à poser aux enfants. Là. Vas-y, mets-moi la diapo suivante. Est-ce que vous savez qui c'est ? Ah, c'est connu, ça va, j'ai choisi le bon truc. Vous savez me dire les noms hein, des... Qui c'est qui les connaît les... Vas-y, allez-y, allez-y. Ouais.
Marcus, Stella,
Ouais, c'est ça. Maintenant, un peu plus dur. C'est quoi la devise de la Pat Patrouille? Ah, mais je ne le montre pas tout de suite, attends. Vas-y. Non, mais les noms, elle les a déjà dit, ta sœur. Là, on cherche la devise. Bon, allez. Ah, Claire, elle connaît la devise. Vas-y. Voilà, c'est ça, vas-y. Mais tu peux mettre la diapo. Bon, elle nous l'a fait en VO parce qu'à la maison, en général, on regarde en anglais. Et de ce que j'ai cru comprendre en français, ils n'ont pas très bien traduit non plus. Mais c'est chez les plus grands qui font semblant de ne pas connaître, là. Vous faites de l'anglais au moins à l'école. Vous êtes capable de me traduire. Ça veut dire quoi, cette devise ? Ouais, j'ai dit les plus grands, mais quand même, on va prendre les plus grands parmi les enfants d'abord. Hein, les adultes, je sais que vous parlez très bien anglais. Vas-y. C'est pas tout à fait ça, mais ça, c'est une partie, ça ressemble à ça, la traduction. Non, c'est pas. Mais c'est qu'il n'y a pas de travail qui est trop grand, ou il n'y a pas de mission qui est trop dure, comme ils disent en français. Et « no pup is too small », c'est « il n'y a aucun chiot qui est trop petit ». Parce que bon, c'est une équipe, forcément, c'est que des chiots dans l'équipe, alors... Mais j'ai presque envie de dire, vu ce qu'on a chanté, « il n'y a aucune coquille de noix qui est trop petite ». Et c'est un peu la morale qu'on va voir aujourd'hui, et vous savez où on la trouve ? Ryder, lui, il a trouvé une bonne formule, une bonne devise pour son équipe, mais on trouve une morale un petit peu pareille quand on lit la Bible. Et on va lire ensemble l'histoire de quelqu'un qui se trouve dans le livre des juges. Est-ce que vous avez une idée de qui ça peut être ? Normalement, c'est pas trop compliqué si vous savez lire. Il y a déjà la diapo à l'écran. Hein. Allez, on va le lire ensemble. C'est l'histoire de Gédéon. L'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer, et son fils Gédéon, c'est notre héros. Il battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Mais il n'est pas tout à fait d'accord, Gédéon. Gédéon lui dit « Oh mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout ça nous arrive-t-il ? Où sont tous ces actes merveilleux que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans ma famille, dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit « Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Alors là, on voit l'histoire de Gédéon, et vous voyez, c'est Dieu a envoyé un ange pour parler à Gédéon. C'est formidable quand Dieu nous parle comme ça, non ? Est-ce que vous avez souvent vu un ange venir vous dire ce que Dieu avait à vous communiquer ? Non, personne ne lève la main. Ça va, je ne suis pas tout seul alors. Ben là, Gédéon, lui, carrément, c'est un ange de Dieu qui vient lui parler et qui lui dit que c'est un vaillant héros et qui va délivrer Israël. Pourquoi il lui dit ça ? Parce qu'à ce moment-là, en Israël, il y avait leurs ennemis qui faisaient que les attaquer, et les Israélites, ils avaient peur. Ils se sentaient tout petits, comme Gédéon. Gédéon, vous voyez, il était en train de battre le blé. Battre le blé, c'est quand on a fini de le ramasser, il y a tous les grains qui sont encore sur les tiges, donc il faut aller battre tout ça pour séparer le grain des tiges, de la paille. Et donc lui, il faisait ça, il se cachait pour faire ça, et là, quand il voit cet ange, et que cet ange lui dit lève-toi, c'est toi qui vas délivrer Israël, c'est toi le nouveau héros d'Israël. Il est pas trop d'accord. Hein. Au début, déjà, il lui dit, attends, nos pères, ils nous disent que Dieu, il est grand, qu'il a fait plein de choses, mais nous, on voit rien, là. Nous, on est en train de se faire taper dessus par les Madianites. Et ouais, les Madianites, c'était leurs ennemis qui étaient autour et qui venaient à chaque fois et leur volaient toute leur nourriture. Ils venaient leur faire du mal et les Israélites, ils n'arrivaient pas à se défendre. Mais pourquoi il se passait ça? Si on lit un peu le début du chapitre, en fait, la Bible, elle nous le dit, c'est parce que le peuple d'Israël, ils avaient désobéi à Dieu. Alors Dieu, il leur avait dit, moi, je vous protégerai tant que vous me servirez, mais si vous me désobéissez, je vous laisserai tout seul. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël s'est retrouvé attaqué partout par ses ennemis. Mais là, Dieu, lorsqu'il parle avec Gédéon, il ne va pas se justifier. À la place, il va insister et lui dire, oui, c'est vrai que les Madianites, ils sont en train de vous attaquer, ils sont en train de vous faire du mal, ils sont en train de vous voler, mais t'inquiète pas, c'est maintenant que je vais vous délivrer. Et c'est toi qui vas le faire. Et là, Gédéon, il saute de joie, il est tout content, il dit, super, on va être délivré. Ah bon, quand même, ça... Je vois Élodie qui réagit devant, mais les autres... Et on n'est pas en classe, hein. Quand je vous parle, vous avez le droit de répondre aussi, hein. Non, Gédéon, quand il entend ça, il a peur. Il fait, mais je suis trop petit, moi. Mon clan, c'est le plus petit de toute la tribu de Manassé. Moi, je suis le plus petit dans ma famille, il n'y a pas plus petit que moi. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Eh bien, Dieu lui dit, c'est pas grave, c'est quand même toi que j'ai choisi. Et vous savez, souvent dans la Bible, c'est ce que Dieu a fait. Dieu, quand il avait besoin de quelqu'un, est-ce qu'il allait chercher le plus grand, le plus fort, le plus intelligent? Eh ben non. En général, Dieu, lui, il allait chercher le plus petit ou le plus faible, celui que les autres y regardent pas. Par exemple, est-ce que vous vous rappelez comment ça s'est passé lorsque David a été appelé pour devenir le roi d'Israël? Qui c'est qui a déjà lu cette histoire-là, qui l'a entendue? Il y a Emeline qui l'a entendue, c'est bien, ça me rassure quand même. De temps en temps, elles écoutent. Eh ben, Dans le premier livre de Samuel, on a la description, et il nous est dit, quand Jessé, ou Isaïe, ça dépend des traductions, hein, c'est le même nom. Quand Jessé et ses fils arrivent, Samuel voit Eliab c'est l'aîné, et il pense, c'est sûrement lui que le Seigneur a choisi. Mais le Seigneur lui dit, cet homme, il est beau, et il est grand, mais ne fais pas attention à cela. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas comme les êtres humains. Les gens font attention à ce qui se voit. Mais moi, je regarde le fond du cœur. Et en fait, non seulement Dieu n'a pas choisi Eliab, mais il n'a pas choisi Abinadab non plus, son frère, et puis il n'a pas choisi l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre. Et les sept fils de Jessé sont passés l'un après l'autre, et Dieu a choisi aucun des sept. Alors Samuel, il était embêté à la fin. Il dit, mais pourtant Dieu m'a envoyé chez toi, et c'est aucun de tous tes fils, là, même les plus grands, les plus forts, c'est pas eux que Dieu veut. Il manque pas quelqu'un par hasard? Eh bien si, ils avaient oublié David, le plus petit. Il avait oublié, il était avec les moutons encore. Et il a fallu aller le chercher. Mais c'est lui que Dieu avait vu. Dieu, il avait vu le plus petit dans la famille. Il a dit, c'est lui qui a le cœur qu'il faut. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, Jésus, il a dit pareil. Vous savez ce qu'il dit dans Matthieu au chapitre 18 et au verset 4? Non, vous ne l'avez pas appris par cœur à l'école du dimanche, celui-là, donc c'est pour ça que je ne m'attendais pas à ce que vous le récitiez, mais ce n'est pas grave. Ogib, pardon. Je suis trop vieux, j'ai pas assimilé le nouveau vocabulaire. Mais regardez, on va le lire Matthieu 18, verset 4. C'est Jésus qui dit, voilà, c'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant, un plus petit, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et dans un autre évangile, dans celui de Luc, il le dit un petit peu différemment aussi, dans Luc au chapitre 9 et au verset 48, vas-y, change la diapo, celui qui accueille en mon nom ce petit enfant, c'est moi-même qui l'accueille, et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand. Pour Dieu, c'est les plus petits qui sont les plus importants. C'est ceux que les gens ne regardent pas, auxquels les gens ne font pas attention. Dieu, lui, il y fait attention. C'est ce que je disais tout à l'heure quand on l'a chanté avec Valérie, c'est la petite coquille de noix. Tous, on a envie de dire, ma vie, c'est une petite coquille de noix au milieu de l'océan. Mais parfois, certains se sentent encore plus petits que les autres. Et bien pourtant, Dieu fait attention à vous, et il s'intéresse à vous, et en plus, il va avoir besoin de vous. Il va avoir besoin de nous pour faire des choses formidables. Dans l'Épître aux Corinthiens, Paul il dit la même chose à toute l'Église. Il leur dit, bon, je ne vais pas le lire en détail, mais s'il va afficher le verset, voilà, il leur dit, regardez parmi vous, il n'y a pas des grands, des puissants, des riches, ce n'est pas les plus intelligents qui se trouvent dans l'Église. Enfin, il y en a peut-être quelques-uns, mais bon, ce n'est pas que ça. Dieu n'a pas pris que les meilleurs. Au contraire, il a choisi les plus faibles, il a choisi les choses que même le monde parfois croit qu'ils sont fous pour annoncer sa parole. Mais quand vous vous trouvez tout petit et que Dieu vient vous demander de faire quelque chose d'aussi grand, c'est un peu impressionnant, non? Qui c'est qui se sentirait là? Si Dieu vient vous dire, allez, aujourd'hui c'est toi mon nouveau grand chef, qui c'est qui veut prendre la place? Non, il n'y a pas de main qui se lève. Ben, c'est normal, ça fait peur. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour Gédéon? Si on continue la lecture, à partir du verset 17, Gédéon, il s'adresse à cet ange et lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra chez lui, prépara un chevreau et fit des pains sans levain avec 22 litres de farine. Ça en fait des pains. Vous imaginez ? Il mit la viande dans un panier, le jus dans un pot et les apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et verse le jus par-dessus. Hop, prépare un bon repas là. C'est ce que fit Gédéon. Et l'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main et en toucha la viande et les pains sans levain. Alors un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut de la vue de Gédéon. Comprenant que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon s'exclama « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face !» Et l'Éternel lui dit « Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Bon, la réaction de Gédéon à la fin, c'est normal, mais en même temps, il n'a pas beaucoup réfléchi quand même. Hein. Parce que les Juifs, ils savaient que dans la parole de Dieu, il y avait marqué que l'homme ne pouvait pas voir Dieu et vivre, parce que Dieu, il était trop glorieux, trop grand. Mais il a réagi comme le père de Samson quand il est... Quand l'ange lui a annoncé ce qu'ils allaient faire, il dit, oh, mince, j'ai vu Dieu. Mais oui, mais Dieu, il t'a demandé de faire quelque chose. Tu vas pas mourir juste derrière, quand même. Réfléchis deux secondes. Mais ce qui est important, c'est que Gédéon, il a demandé à Dieu, mais moi, j'ai peur d'y aller faire tout ça. Montre-moi que c'est bien toi qui vas y aller avec moi. J'ai besoin de ton aide, moi. Et Dieu lui a dit, d'accord. Dieu a dit, je vais bien te confirmer que c'est ça. Et il l'a fait plusieurs fois. Ça, c'est la première fois qu'il le lui fait. Vous voyez? Et ce qui est intéressant, c'est que là, Gédéon, par quoi il a commencé? Il a commencé par dire, je vais faire une offrande. Moi, je vais te donner quelque chose, Seigneur. Et toi, en retour, s'il te plaît, montre-moi que c'est bien toi qui m'appelles. Montre-moi que c'est bien toi qui me demandes de faire ça. Parce que commander toute l'armée d'Israël, alors que moi, je suis tout petit, je ne peux pas le faire. Et Dieu a trouvé que c'était une bonne question, une bonne demande de la part de Gédéon. Et c'est pour ça qu'il lui a donné ce signe. Et là, hop, vous voyez, il y avait les pains... Et d'un seul coup, ça a pris feu, et Gédéon il s'est rendu compte, ah ça c'est pas normal, ça se produit pas tout seul ça. Hein. Quand vous mettez du pain dans un panier, il prend pas feu tout seul, c'est que c'était vraiment Dieu qui était en train de l'appeler. Et un peu plus loin, il a quand même encore un peu de doute. Alors, il demande un autre signe à Dieu. C'est à partir du verset 36. Et là, ça devient encore un peu plus bizarre ce qu'il demande. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit, je vais mettre une peau de mouton avec sa laine dans l'aire de battage, c'est l'endroit où il battait le grain. Si la peau seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je saurai que tu délivreras Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit. Et cela se passa ainsi. Le lendemain, il se leva de bonne heure, pressa la peau de mouton et en fit sortir la rosée. Elle donna une coupe pleine d'eau. Gédéon dit à Dieu, c'est bon, maintenant je suis convaincu. Non, il y en a deux qui lisent en même temps que moi, ça va. Non, Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Une dernière demande, vous voyez. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la peau de mouton, que la peau seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu agit ainsi cette nuit-là, la peau de mouton seule resta sèche et le terrain se couvrit de rosée. Là, parfois, moi, j'ai entendu des gens qui le citent, ce truc-là, qui disent « On va étendre une toison devant Dieu. » Une toison, c'est une peau de mouton. Hein. « On va étendre une toison devant Dieu pour dire « Je vais mettre Dieu à l'épreuve. » Pour essayer de confirmer ce que je crois que je dois faire. Sauf que si on regarde Gédéon, là, déjà, lui, c'était plutôt, il essayait de trouver un moyen de dire « Vous voyez, ça ne s'est pas fait, donc ce n'est pas moi. Je peux m'en aller. » Vous voyez, il a demandé un truc. Et puis, comme il a vu que ça marchait, et bien le lendemain, il a demandé l'inverse. La première fois, il dit « Allez, la peau de mouton, je veux qu'elle soit toute mouillée, tout le reste soit tout sec. » Et ça a bien marché. Mais il s'est dit « Peut-être que c'est le hasard, après tout. Peut-être qu'il y a eu un petit nuage qui a plu que sur la peau, là. » Alors le lendemain, il a dit « Non, je veux l'inverse maintenant. La peau de mouton, elle reste toute sèche et le terrain, il est tout mouillé. » Et c'est ce qui s'est passé. Dieu a encore confirmé. Mais avant de faire ça, qu'est-ce qu'il avait fait Gédéon ? Ce qu'on oublie de citer parfois, c'est qu'avant ça, déjà, Gédéon, il avait commencé à faire ce que Dieu lui avait demandé. Il avait renversé un autel de Baal. Baal, c'était un faux dieu. Et il y avait un autel qui avait été construit pour lui dans sa propre famille. Alors que Dieu, il ne voulait pas d'idolâtrie. Dieu, il ne voulait pas qu'on aille prier un autre dieu. Alors il a demandé à Gédéon, tu vas le détruire cet autel. Et Gédéon l'a fait. Et ça a mis en colère tout le monde autour de lui. Tous les voisins, tout le monde qui venait prier à cet hôtel sont venus se plaindre à son père. Il dit, t'as vu ce qu'il a fait ? Il faut qu'on le punisse. Heureusement, son père l'a défendu. Il a dit, si Baal il n'est pas content, il n'a qu'à venir se plaindre. Hein. Et vous savez quoi ? Baal, il ne s'est pas plaint, parce qu'il n'existait pas. Et après avoir fait ça, il a fait une deuxième chose, Gédéon, c'est qu'il a envoyé un appel à tout le peuple d'Israël pour dire, allez, on va aller se battre contre les Madianites, tous ceux qui veulent venir dans l'armée, vous me rejoignez. Donc quand il a demandé ça à Dieu, en fait, il avait quand même commencé à faire ce que Dieu l'avait demandé. Il avait commencé à rassembler son armée. Mais il avait encore besoin d'être rassuré, vous voyez. Même parfois, quand on commence à faire ce que Dieu nous a demandé, parfois on a quand même un petit peu peur, on se pose encore un peu la question, mais est-ce que je vais vraiment pouvoir faire ça ? Ce que Dieu m'a demandé, c'est tellement impressionnant, tellement dur. Parfois même simplement le fait de parler de Dieu à nos copains à l'école ou avec des amis, ça peut nous faire peur. Et on se dit, mais est-ce que je vais y arriver à le faire ? Et Dieu, vous voyez, quand il a entendu que Gédéon lui disait, mais allez, s'il te plaît, rassure-moi, et bien il a accepté. Et il y a même encore une autre fois où il a rassuré un peu plus Gédéon. C'est au début du chapitre 7. Là, Gédéon, il a préparé toute l'armée, ils sont prêts à aller partir, se lancer dans la bataille. Et Dieu lui dit quelque chose de plus. Donc dans Juges au chapitre 7, à partir du verset 9, l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp des Madianites, car je les livrerai entre tes mains. » Et puis il ajoute, « Si tu as peur d'y descendre, vas-y avec ton serviteur, pourra. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Gédéon descendit avec son serviteur Pourra jusqu'aux avant-postes du camp. Les Madianites, les Amalécites et tous les nomades de l'Est étaient dispersés dans la vallée comme un essaim de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est au bord de la mer. Ça en faisait du monde à combattre. Lorsque Gédéon arriva, un homme était en train de raconter un rêve à son camarade. Il disait « J'ai fait un rêve. J'y voyais un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous. Elle a été démolie. » Son camarade répondit, « Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, le fils de Joas, l'Israélite. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Là, Gédéon était prêt à partir à la bataille. Il avait peut-être encore un petit peu peur. Et Dieu lui dit, « Tu vas voir. Va te faufiler là, jusque dans le camp des Madianites. » Et puis, il lui a même dit, « T'as vu, si t'as peur d'y aller tout seul, vas-y, prends ton serviteur avec toi. À deux, vous pourrez vous rassurer. » Et donc, les deux, ils sont arrivés sur la pointe des pieds. Ils se sont faufilés entre les tentes et puis ils ont essayé d'écouter les conversations. Et quand ils ont écouté les conversations, vous avez vu la conversation qu'ils avaient, les ennemis ? Les ennemis, ils étaient terrifiés. Ils faisaient même des rêves que Gédéon allait les battre. Et quand ils se racontaient le rêve l'un à l'autre, Eh bien, ils avaient bien compris que oh, c'est Gédéon qui va nous battre, qu'est-ce qu'on va faire? Alors que pourtant, c'est eux qui avaient la plus grosse armée. Ils avaient, vous avez vu, il y avait des chameaux autant que les grains de sable sur le bord de la mer. Est-ce que vous avez essayé de compter les grains de sable quand vous allez à la plage? Non, moi non plus, c'est des nombres trop grands, je ne sais même pas comment on les dit, ces nombres-là. Et ils disaient qu'ils étaient aussi grands qu'un essaim de sauterelles. Bon, chez nous, on n'en a pas beaucoup des essaims de sauterelles, mais dans certains pays où ils se font attaquer parfois par les sauterelles et que ça leur mange tous les champs, ils savent que ça en fait des insectes. Alors Gédéon, lui, il ne savait pas que c'est ce qu'il allait entendre. Mais quand il est arrivé là, qu'il a écouté ce que Dieu lui avait demandé, il s'est rendu compte qu'effectivement, Dieu s'occupait bien de lui. Non seulement il l'avait convaincu, lui, qu'il allait battre les Madianites, mais il avait même convaincu les Madianites qu'ils allaient se faire battre. Mais il s'est passé aussi une autre chose importante quand Gédéon a rassemblé toute son armée. C'est que Dieu a voulu lui apprendre une leçon, la lui faire comprendre encore plus. Déjà, il lui avait fait comprendre que Dieu voulait de lui, qui était tout petit au milieu de sa famille. Mais quand il a rassemblé toute son armée, Dieu s'est dit, « Oups, là, il risque de ne pas bien comprendre la leçon. Il va falloir lui expliquer un peu plus. » Et donc, il s'est passé quelque chose, lorsque toute cette armée là, des Israélites s'est rassemblée, et que Dieu s'est adressé encore à Gédéon. C'est au début du chapitre 7, et il nous est dit ça. « Jérubbaal, c'est-à-dire Gédéon, c'est un autre nom qui avait été donné à Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et installèrent leur camp près de la source de Harod. Le camp de Madian se trouvait au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. Et l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Proclame donc le message suivant aux oreilles du peuple, que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galaad. Il y eut 22 000 hommes du peuple qui retournèrent chez eux, il en resta 10 000. Dieu lui dit déjà, bon, là vous êtes trop nombreux. Si vous allez comme ça, vous êtes tellement nombreux que vous allez croire que c'est vous qui êtes assez fort pour battre les Madianites. Et ça lui allait pas à Dieu. S'il avait choisi le plus petit, c'était pas pour qu'après il se croie les plus forts. Alors il a dit, ben, tous ceux qui ont peur là, qui rentrent chez eux. Et vous avez vu, combien il y en a qui sont partis? 12 000? Non, non. Non, il y en a 22 000 qui sont rentrés chez eux, il en restait 10 000. Voyons voir, est-ce qu'il y en a qui sont forts en maths? Ça divise par combien, ça, à peu près? À la louche. Ouais, c'est ça, il a divisé par 3, là. Il n'y avait plus qu'un tiers de l'armée qui restait. Alors qu'en face, ils ont des chameaux comme les grains de la mer, comme les grains de sable au bord de la mer. Ça commence déjà à faire pas beaucoup. Et pourtant, Dieu y continue. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. 10 000 hommes, c'est trop. Fais-les descendre au bord de l'eau, et là, je ferai pour toi un tri parmi eux. Celui à propos duquel je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui à propos duquel je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple au bord de l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme le ferait un chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit alors à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont lapé l'eau que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple reparte chacun chez soi. » On prit les provisions et les trompettes du peuple, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël chez eux en gardant seulement les 300 hommes. Le camp de Madian se trouvait au-dessous de lui dans la vallée. Il en reste combien? 300. On est parti de plus de 30 000 au départ. Ça veut dire qu'il a divisé par combien là, l'armée? C'est plus compliqué là. Non, personne? Et... Ah non, 3 c'est juste la première fois là. Là on est passé de 30 000 à 300. Non, c'est par 100. Il y a 100 fois moins de personnes qu'au début. Alors, avec 100 fois moins de personnes, est-ce que vous croyez qu'ils peuvent battre l'armée de Madian en face? Plus, il y a Madian, il y a la Madianite, les Amalécites, et puis tous les autres peuples qui étaient autour, qui aimaient bien aussi taper sur Israël. Ça fait trop de monde, là. Et pourtant, Dieu lui dit, non, non, moi je veux que ça, une toute petite armée. Comme je voulais le plus petit pour commander l'armée, je veux aussi l'armée la plus petite possible. Pourquoi est-ce que Dieu voulait l'armée la plus petite? Parce que si l'armée elle était trop grande, on allait dire, c'est parce qu'il y avait une grande armée. Alors que si l'armée elle est toute petite, on va dire, non, c'est pas possible, c'est pas l'armée qui a fait ça. Ils sont trop petits, ils n'étaient pas assez nombreux. C'est forcément, il y a forcément quelque chose d'autre. C'est forcément Dieu qui a fait ça. Et c'est comme ça que Gédéon est allé à la guerre, avec seulement 300 hommes face à une armée immense. Et alors là, Dieu lui a dit, t'inquiète pas, je vous ai prévu les armes les plus sophistiquées, vous avez des gros tanks là, des grosses mitrailleuses. Non, pas du tout. Est-ce qu'il leur a donné, bon d'accord, c'est pas d'époque, mais il aurait pu leur donner les meilleures armes de l'époque. Je sais pas, moi, une catapulte peut-être. Non, il leur a dit, vous allez faire différemment, vous allez voir comment vous allez vous battre. Et à chaque fois, en plus, que Dieu disait au peuple d'Israël comment aller se battre, il leur trouvait toujours des façons bizarres. C'était toujours des trucs qui n'étaient pas normales. Il y a Johan qui nous a parlé il n'y a pas longtemps quand il parlait à David et qui lui a dit « Tu attendras d'entendre des pas dans les cimes des mûriers. » Vous entendez beaucoup des gens marcher en haut des arbres, vous ? Il a dit « C'est quand tu entendras les pas là-dedans qu'il faudra attaquer. » Et ça a marché. Il y a une autre fois, c'était les Syriens qui avaient entouré la ville de Dothan, là où il y avait le prophète Élisée. Et puis son serviteur, quand il a vu ça, il dit « Oh, on est perdu. Toute la ville est encerclée, on est assiégé. » Mais le prophète, il lui a dit « Mais non, t'inquiète pas. Il y a beaucoup plus de monde avec nous que contre nous. Parce qu'avec nous, il y a toutes les armées de Dieu. » Et quand Dieu lui a ouvert les yeux, il a vu tout ça. Et bien là, avec Gédéon, il lui a trouvé encore un autre truc le plus tordu possible. C'est un peu plus loin dans le chapitre 7, toujours. Et donc, lorsque Gédéon eut entendu le récit et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit « Levez-vous, car l'Éternel a livré le camp de Madian entre vos mains. » Là, ça y est, le message, il est bien passé. Il a bien compris, Gédéon, que ça y est, ils vont gagner. Il répartit les 300 hommes en trois groupes. Et leur remit à tous des trompettes ainsi que des cruches vides avec des torches dans les cruches. Elles sont où les armes ? Il manque les épées là, non ? Et les lances ? Non, il leur a juste donné des torches dans des cruches. Et il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que je serai arrivé aux abords du camp, vous ferez ce que je ferai. Quand je sonnerai de la trompette, ainsi que tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz « Pour l'Éternel et pour Gédéon !» Gédéon et les 100 hommes qui l'accompagnaient arrivèrent aux abords du camp peu avant minuit, alors qu'on venait de remplacer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois groupes sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches, prenant de la main gauche les torches et de la main droite les trompettes dont ils devaient sonner, ils s'écrièrent « À vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon !» tout en restant chacun à sa place autour du camp. Et c'est bien, ils font « À vos épées pour l'Éternel !» Mais il n'y a personne qui bouge. Il n'y en a pas un qui a couru avec son épée, là. Ils sont restés où ils étaient. Et le camp tout entier se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent une nouvelle fois de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel fit en sorte que les hommes tournent l'épée les uns contre les autres. Les hommes du camp s'enfuirent jusqu'à Bethshitta, vers Tserera, et jusqu'aux abords d'Abel-Méola, près de Tabat. Les hommes d'Israël, les hommes des tribus de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé se rassemblèrent et poursuivirent les Madianites. Vous avez vu cette stratégie-là ? Est-ce que vous avez déjà vu des armées combattre comme ça ? Ils avaient une trompette, une torche cachée dans une cruche, et c'est avec ça qu'ils ont battu toute cette grande armée. Parce qu'au moment où Gédéon a donné le signal, ils ont cassé les cruches, et d'un seul coup on a vu toutes les torches. Ils ont fait beaucoup de bruit dans les trompettes et puis à crier pour l'Éternel et pour Gédéon. Et qu'est-ce qui s'est passé chez les Madianites ? Vous avez vu que les Madianites, déjà, ils avaient la trouille. Hein. Ils savaient déjà qu'ils allaient se faire battre. Alors quand ils ont vu tout ça, ils se sont dit « Oh, on est encerclés ! Ils sont tous partout, ils vont nous ratatiner !» Et qu'est-ce qui s'est passé ? Non seulement ils ont pris peur, mais en plus, ils ont commencé à se battre entre eux. Ils se sont trompés, ils ont cru que leur copain à côté, c'était l'ennemi, et puis ils ont commencé à se taper les uns sur les autres. Et à la fin, ils ont fini par tous s'échapper. Et les Israélites, ils ont pu les poursuivre, mais ils n'avaient rien à faire. Finalement, c'est Dieu qui avait tout fait pour eux. Et ils ont remporté une grande victoire, là, comme Dieu l'avait promis. Mais surtout, comme Dieu l'avait promis, on a bien vu que c'était Dieu qui avait tout fait. Eux, ils n'avaient pas fait grand-chose. Hein. Aucun d'entre eux n'a eu besoin de combattre, là. Vous avez vu, même quand ils ont crié, ils sont restés à leur place. Ils n'ont même pas fait un pas vers les Madianites. Les Madianites, ils se sont tous battus entre eux tout seuls, et c'est comme ça qu'ils ont perdu. Alors, quand on lit toute cette histoire, moi, il y a deux choses que j'aimerais que vous reteniez. Ça va être ma conclusion. La première, c'est que Dieu cherche, en général, les plus petits. Ceux qui se croient les plus petits, les plus faibles, c'est ceux-là que Dieu préfère aller voir. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont petits, ils ne viennent pas faire les beaux derrière pour dire « c'est moi qui suis capable de faire ça » ou « c'est moi qui peux accomplir toutes ces choses-là ». Quand on est tout petit, quand on sait qu'on est tout petit, on est humble. On dit « mais moi je ne peux rien faire comme je suis ». Et on est obligé de faire confiance à Dieu. Parce qu'on sait que si on fait confiance à nos propres forces, on les cherche, les biceps, ils n'y sont pas. Ça ne va pas marcher. Non, Dieu cherche les plus petits parce que les plus petits, ils savent qu'ils doivent faire confiance à Dieu et qu'ils n'ont pas d'autre choix. C'est pour ça que même pour servir dans l'Église, on n'a pas besoin d'être les plus grands, d'être des adultes qui ont fait des années d'études. Même quand on est tout petit, on est utile dans l'Église. Parce que quand on est tout petit, on a ce cœur d'enfant. Comme disait Jésus, c'est ceux qui sont comme les plus petits enfants là, qui sont les plus importants dans le royaume de Dieu. Et la deuxième chose, c'est que si Dieu choisit les plus petits, c'est parce que c'est lui qui va accomplir ce qu'il a à faire. C'est lui qui va accomplir des actes fantastiques que personne ne croyait possibles. Mais parce que c'est lui seul qui sera glorifié. On ne pourra pas dire c'est parce que lui, il était plus grand, il était plus fort, il était plus intelligent que les autres qu'il a pu faire ça. Non, on sera obligé de dire lui, il était tout petit, il n'était pas vraiment pas très fort, mais c'est forcément Dieu qui s'est servi de lui. Plus on est petit, et plus on est utile à Dieu. Vous le croyez, ça ? Eh bien, j'espère que vous allez le retenir et que la prochaine fois que vous avez peur de faire quelque chose pour Dieu, vous vous rappellerez que, comme Gédéon, Dieu est avec vous. Et que si vous vous sentez trop petit, eh bien, c'est super, c'est juste ce que Dieu, il attend. Parce que comme ça, vous serez obligé de lui dire, « Seigneur, aide-moi. Seigneur, c'est toi qui dois faire ce qu'il y a à faire. Si je dois parler, mais c'est toi qui me fais parler. Si je dois dire des choses, eh bien Dieu, il vous donnera les mots qu'il faut pour parler à ceux à qui vous voulez parler. Amen. Allez, on va prier pour demander à Dieu vraiment de nous aider à lui faire confiance comme ça. Seigneur, merci pour l'exemple de Gédéon que tu nous as donné. Merci parce que c'est vrai que Gédéon était tout petit, il était tout faible et insignifiant. Et personne ne se serait méfié de lui. Tout le monde aurait cru que c'était le dernier et celui qui n'aurait pas pu se charger d'une armée, mais avec ton aide, il a pu faire des choses incroyables. Merci Seigneur, parce que Gédéon, il a remporté la victoire, pas parce qu'il était le meilleur chef, parce qu'il était le meilleur général d'armée, mais parce que c'est toi qui t'es occupé de tout ça. C'est toi qui as tout fait pour lui. Ô Seigneur, aide-nous aussi à réaliser que nous aussi, on est tout petits comme Gédéon. On n'est pas plus grand, on n'est pas plus fort, on n'est pas plus intelligent, on n'est pas meilleur que les autres. Non, on est juste petit et faible devant toi. Mais toi, tu veux te servir de nous comme ça, parce que c'est toi qui vas nous donner des forces. Et c'est toi qui vas remporter des victoires en te servant de nous. Merci Seigneur, parce que tu nous aimes et parce que tu veux nous utiliser, même quand on est tout petit. Amen.